BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderie.
Soyez tous et toutes les bienvenus pour cette nouvelle édition de Tout pour investir, l'émission qui parle de vos finances personnelles, qui parle d'éducation financière, qui vous aide à choisir parmi les dynamiques d'investissement les plus porteuses du moment et qui vous aide à résister aux incertitudes. Vos pistes d'investissement du moment au cœur de notre émission ce matin. Vraiment toutes les thématiques qui font l'actualité et ça c'est précieux. On va tout prendre dans l'ordre et vous donner les meilleurs conseils et avis pour orienter vos investissements, aller chercher du dynamisme. Alors l'IA, oui, grande question, elle revient au cœur de l'actualité avec tout un tas de choses dans les tuyaux après une période quand même marquée par la géopolitique. Au beau milieu de beaucoup d'interrogations sur le crédit privé qui alimente la high-tech, notamment américaine, qu'en est-il de l'investissement dans les start-up chez nous? Eh oui, avec une loi budgétaire 2026 qui a un peu modifié le paysage, on va revenir sur ces sujets avec Laurent Grassin de Boursorama et Benjamin Voitine de SoWeFund. Les small et mid-cap aussi, un terre d'investissement privilégié. C'est jeudi, c'est le journal des small et mid avec Eric Lewin de Bourse Direct. Tout à l'heure, on se penchera notamment sur le cas Ribair. Tiens, hein, une de nos pépites du secteur high-tech en France. N'en fait-on pas un petit peu trop autour de ce titre qui décolle comme une fusée? On en parlera avec Eric Lewin. L'assurance vie aussi, le couteau suisse de vos investissements. Justement, est-ce vraiment un couteau suisse? N'y a-t-il pas des cas où cette solution de rêve pour prendre des allures de cauchemar, des faux pas éventuels à éviter, des profils pas adaptés, ça peut exister? On en parlera avec François-Xavier Sœur de Terrae. Enfin, les valeurs sûres au chapitre de vos petits trésors, les montres de collection. Grosse actualité en ce moment entre le salon de l'horlogerie à Genève et la préparation du Tour Auto chez nous en France. Ben oui, moment très important pour l'industrie horlogère car bon nombre de pièces de collection sont intimement liées à l'histoire et au monde automobile. Gros plan avec les spécialistes d'Agut en fin d'émission dans le coffre-fort. Vous pouvez nous joindre par email, l'adresse est direct@bfmbusiness.fr. Vous pouvez nous envoyer un SMS au 732 16, tapez le mot-clé business suivi de votre message et puis sinon directement via mes comptes Twitter et LinkedIn. Le reste de l'actualité du jour. Première estimation officielle de la croissance en Chine ce matin. 5% sur les trois premiers mois de l'année par rapport à l'an dernier. Plus 1,3% en rythme trimestriel au-dessus des prévisions des économistes. La croissance britannique, là, aux surprises de 0,5% du PIB en février. On n'est pas sur le même paradigme. Le dernier mois avant le début de la guerre qui par la suite devrait nettement pénaliser l'économie du pays qui est quand même très dépendante du prix des hydrocarbures. Donald Trump annonce qu'auront lieu dès aujourd'hui de nouveaux pourparlers entre Israël et le Liban, cette fois directement entre leurs dirigeants, ce qui serait une première depuis plusieurs décennies. Ensuite, sur le front iranien, l'administration américaine exprime aussi sa confiance quant à la possibilité de parvenir à un accord de paix. Elle dit discuter d'une deuxième session de négociation avec lieu de rencontre le Pakistan encore. En attendant, le blocus de la marine américaine se poursuit. Elle dit avoir empêché 10 navires de quitter les ports iraniens depuis 48 heures. Les États-Unis qui veulent clairement bloquer toutes les expéditions de pétrole iranien, ce qui pourrait bien forcer tout simplement Téhéran à interrompre sa production. Total Energy fait savoir ce matin qu'il prévoit une production stable au premier trimestre comparé à la fin 2025. Le groupe se dit freiné donc par rapport à ses prévisions initiales. Et puis, contre la flambée des prix de l'électricité aux États-Unis, on renonce à des data centers. C'est le cas dans le Maine, devenu hier le premier État américain à voter un moratoire pour bloquer toute construction de gros data centers sur ses terres pendant un an et demi. La loi doit encore être promulguée par le gouverneur, mais le Maine pourrait bien faire figure de précurseur puisque 11 autres États américains sont sur le point d'examiner des textes similaires. Et une actualité très très riche en énergie. Tout de suite, le tableau de bord.
Tout pour investir, le tableau de bord.
Et selon le principe des vases communicants, on a un CAC 40 qui repart à la hausse après une séance à la baisse hier, plus 0,4%. On est à 8308 points avec toujours une forte tendance du côté de la tech. L'Euronext Tech Leaders gagne 1%. L'Eurostox 50, plus 0,32, plus 0,25 pour le DAX à Francfort et l'IBEX à Madrid qui est quasiment inchangé. Petit coup de sur la bourse de Londres qui grimpe de 0,1% Milan. Plus qui se passe du côté du CAC 40. Semaine extraordinaire pour les groupes liés aux logiciels et aux services informatiques. Dassault Systèmes gagne 2,5% à 18,51 €. Capgemini plus 2,35 € à 108,80 €. On l'a dit, depuis une grosse semaine, on a des signaux très positifs du côté de l'investissement, notamment dans l'industrie des logiciels. Les gros investisseurs qui sont justement bloqués par les problématiques de crédit privé aux États-Unis arrivent à lever de l'argent, arrivent à encore investir, à remettre au pot. Et ça, ça fait redémarrer tout un secteur qui a été, mais alors, maltraité depuis des mois et des mois sur fond de soupçons de disruption totale par l'intelligence artificielle. On voit que ça va être un petit peu plus compliqué et qu'une reprise s'amorce sur des fondamentaux peut-être un petit peu plus sains, notamment pour ce secteur. Sinon, on a des valeurs plutôt traditionnelles qui sont à la hausse. Saint-Gobain qui gagne 1,8% à 77,62€. Airbus plus 1,7% à 174,54€. On a LVMH bien orienté, plus 1,05 à 486,95€, alors que Kering continue de corriger. Après une séance qui a été difficile hier, le titre perd encore 1,5% à 250,05€. Réunion cruciale aujourd'hui, toute la journée à Florence, le berceau de Gucci, pour annoncer la relance de la marque et un nouveau plan stratégique pour ramener de la rentabilité et du dynamisme chez Kering. Luca De Meo sera bien entendu à l'honneur toute la journée. Total Energy, moins 0,6% à 76,19€. On prend acte aussi d'une consolidation qui se poursuit sur les prix du brut. 96,28$ là en ce moment pour le Brent de mer du Nord et 92,42€ pour le brut léger américain. Plus forte baisse du SBF 120, c'est DBV Technologies, moins 3%, 3,53€. Et la plus forte hausse, elle est aussi liée au logiciel. C'est Atos qui gagne 5,7% à 37,46€. Mention spéciale pour Soitec, alors qui signe vraiment plusieurs semaines phénoménales. Là, le titre prend encore 4,1% à 80€. Un petit coup d'œil sur les taux d'intérêt. Ça reste sage. 3,67 pour l'OAT français 10 ans, 3,03 pour le 10 ans allemand. Et on descend sous les 4,3% pour le 10 ans américain. 4,28. Allez, on déchiffre l'actualité du jour.
Tout pour investir, le déchiffrage.
Avec nos invités qui vont se mettre en place, mais évidemment, on va beaucoup parler technologie, IA, logiciel. Nous rejoignent en ce moment sur ce plateau Laurent Grassin de Boursorama. Bonjour Laurent. Bonne. Ainsi que Benjamin Watine de SoWeFund. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je le disais là, pendant le tableau de bord, il y a quand même du mieux, voire du bien mieux sur le secteur des logiciels. Bon, sur fond de recomposition un petit peu du paysage de l'IA qui a été profondément perturbé par la géopolitique, ça évidemment. Et on a l'impression de revenir sur des fondamentaux un petit peu plus sains. Même si il y a quand même un cas emblématique hier, qui nous a fait bien rire du côté de BFM Bourse hier après-midi, on l'a commenté en direct. Il y a une société, voilà, je vous raconte l'histoire si vous l'avez loupé. Il y a une société qui s'appelle Allbirds du côté des États-Unis qui fabrique, voilà, des baskets de daron, comme on dit chez les jeunes, enfin, des pompes pour vieux. Non, je sais même pas si ça se voit en France. Allbirds, je connais pas. Je connais Skechers, qui est un peu dans le même genre. Et bon, Allbirds, c'est une marque sur le déclin. Voilà, ça fait partie de ces marques où on voit des boutiques, mais on voit jamais les chaussures aux pieds des gens. Bon, et ils se sont dit, bon ben voilà, ce qu'on va faire, on va arrêter de vendre et de fabriquer des chaussures. Maintenant, on va acheter et vendre des cartes graphiques pour l'intelligence artificielle. Le truc, bon. Tout le monde se dirait de raisonnable, ouais, non, mais où est-ce qu'ils vont ces gens-là? Le titre a pris jusqu'à 800% en bourse hier. En plus, ils ont changé leur nom. Maintenant, ils s'appellent Newbird AI. Alors, je me souviens d'une époque où on rajoutait blockchain partout sur le nom des entreprises pour les faire grimper en bourse ou .com.
Antoine, on pourrait parler de toutes ces sociétés qui se sont réinventées en Bitcoin Treasury Company aussi.
Oui, exactement.
Hein, aussi, beaucoup plus récente, beaucoup plus proche de nous. Hein.
Tout à fait. Les pages jaunes, etc.
Donc, je n'ai pas de l'IA dans les chaussures.
On aurait pu le penser.
Est-ce que c'est l'IA qui va te faire courir plus vite? Ça, je sais pas. Mais voilà. Malgré quelques cas un petit peu ponctuels qui relèvent de l'anecdote, on a l'air de repartir quand même sur des fondamentaux peut-être un petit peu plus sains. Je sais pas. Ça revient sur les logiciels, dans ce système Capgemini. On se dit, on est peut-être allé trop loin dans le. De toute manière, l'IA va tout détruire, etc. Le réflexe conditionné est peut-être en train de s'estomper. Avec une reprise des investissements de manière un petit peu plus saine. Est-ce que c'est cette impression-là que vous avez, Laurent ?
Oui, mais dans un secteur comme ça, ou dans un marché aussi qui est devenu effectivement très volatile, où la thématique IA, elle porte véritablement des flux hyper importants, c'est vrai qu'il y a des réactions émotionnelles, émotives. On va peut-être y revenir, parce qu'on parlera peut-être de private equity, mais
évidemment.
Une partie du crédit privé, c'était que tout d'un coup, tout le monde a tiré les traits en se disant, mais finalement, on finance des entreprises de logiciels qui vont toutes faire faillite parce qu'elles sont peu profitables. Il n'est pas ici question de dire qu'il y a zéro risque, mais on a tiré les traits tout de suite vers le scénario le plus apocalyptique. il reste aussi une variable qui est hyper importante, c'est la vitesse d'adoption au sein des entreprises de l'intelligence artificielle. Et c'est là aussi où je pense que tout le monde l'a connu dans sa boîte, que ce soit en France ou à l'international. Il y a ce moment où tout le monde découvre l'IA, tout le monde fait sa roadmap IA, c'est hyper ambitieux, on va tout changer. Et puis au bout de 2 ans, on a avancé sur 1 ou 2 cas pratiques, cas d'usage, mais on n'a pas avancé si vite que ça et ça n'a pas non plus complètement bousculé les modèles. Dans
l'édition, on est toujours obligé de faire nos notes de frais à la main.
Exactement, c'est pareil. Enfin, prenez un exemple vraiment emblématique sur la génération d'images. On s'est dit, aujourd'hui, effectivement, quand vous êtes Adobe, vous avez peut-être été un peu secoué, mais vous intégrez ces solutions dans...
Précisément.
Voilà, dans vos produits, vous n'allez pas non plus mettre à la poubelle des années de savoir-faire. Mmh. Donc, ce qui est intéressant, c'est que oui, je pense que tout le monde revient un peu sur Terre. Alors, c'est pas dit qu'on ne reparte pas
dans
sur
les emballements. Excès,
ouais. Demain, Anthropique sort encore une nouvelle version de Claude et on se dit, mon Dieu, ça y est, il sait tout faire. Et on repartira sur exactement le même type de... Je ne crois pas beaucoup à la sagesse des marchés là-dessus. Mais en tout cas, peut-être là, un retour aux fondamentaux. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que ce qui a continué à monter sur l'intelligence artificielle depuis le début d'année, on est vraiment quand même... au cœur de ce qui est finalement derrière vous, hein, en image, le circuit intégré, la
puce, semi-conducteur.
Les gros succès de ce début d'année, c'est Intel, c'est Micron, c'est Marvel, c'est Lam Research, c'est Applied Materials, c'est Monolithic Power System, ARM Holding, KLA. Ça, c'est pas forcément des noms qui parlent à tous les gens qui nous regardent, mais c'est plus 40% de hausse depuis le début de l'année sur
KLA, le Nasdaq. C'est l'ancien KLA Tencor.
KLA, c'est leader mondial conception, production, commercialisation, procédé de contrôle, d'amélioration des processus de fabrication de semi-conducteurs.
Oui, donc, voilà.
Tout ce qui tourne autour de finalement le cœur de ce qui va être l'IA continue à marcher très bien. Je vais pas vous reparler des mémoires, même si c'est quand même extrêmement
important. Ça,
Western Digital, SanDisk, Seagate. Ouais. Donc voilà, d'un
HKNX,
côté,
HKNX
d'un côté
Corée.
peut-être qu'on se calme entre guillemets sur le côté un peu prophet of doom, mon Dieu, l'IA va tous nous remplacer, mais de l'autre on voit bien que tout ce qui reste au cœur de ce qui va être capable de produire la puce la plus efficace, peut-être la moins consommatrice, etc., reste quand même très très dans le viseur des investisseurs.
Ouais, et je regarde Soitech, là ça reste une...
Et bien sûr, on avait parlé il y a 2 semaines, Soitech
plus 182% en 3 mois.
Oui, parce qu'entre-temps, les analystes se sont dit que c'était bien et ont commencé à relever les objectifs de
parce
cours aussi.
Parce qu'à la fois, ils s'exposent plus à l'IA, mais en même temps, ils n'oublient pas de s'exposer et de fournir pour la bonne vieille 4G. Mmh. Et là, on répond à la fois aux dynamiques IA, mais aussi à la solidité des activités d'infrastructure.
Exactement.
Non, c'est très bien vu. Benjamin Watine. Ce climat d'investissement là, qui semble revenir, peut-être sur des fondamentaux un petit peu plus solides. Il y a un truc qu'on a un petit peu oublié parce qu'on a beaucoup parlé de private equity, crédit privé. Il y a eu ça aussi qui a joué, etc. Quand on investit dans les startups et dans l'innovation en France, c'est quand même des capitaux considérables. On a passé des années, à courir après les licornes, etc. Bon, faut voir.
On court encore.
Voilà, on court encore, il n'y a pas de souci. Faut voir ce qu'il en reste un petit peu sur le long terme. Mais parallèlement, il y a aussi des petits changements du point de vue réglementaire, du point de vue fiscal. Et ça nous ramène à nos considérations et à nos éditions spéciales sur la loi budgétaire, qu'est-ce que ça va changer sur l'investissement au quotidien, alors votre assurance vie, machin et compagnie, mais aussi investir dans les start-up. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Il y a plein d'intervenants qui passent leur journée et leur carrière, qui passent à l'antenne, les Alexandre Leng, Carré Partners, etc. Je pense à lui en premier lieu. Mais vous aussi, globalement, comment ça se passe? Comment se porte le paysage de l'investissement dans les startups, là, à l'heure où on se parle?
Ça reprend un petit peu, aujourd'hui, le grand public, le particulier, prend le relais sur, on va dire, l'institutionnel. Mais si on revient à peut-être simplement au PLF, là, récemment, en 2026, il y a quand même des choses qui ont encore évolué. Loi des finances, on l'a tous vu passer, flat tax, petite augmentation, rien de catastrophique, mais on vient encore renier un petit peu.
Ça fait pas plaisir quand même.
On vient renier encore sur nos rendements.
Le signal n'est pas très très bon.
Ça, c'est ce premier signal. Nouveau signal, c'est que sur la partie IR-PME et sur la partie JEI, JEIR, on conserve l'avantage fiscal. Et donc, c'est important, là, en ces temps de déclaration d'impôts, eh bien, de rappeler aux Français qu'ils ont l'opportunité d'investir dans l'innovation, dans les jeunes entreprises innovantes, mais qu'investir comporte des risques. Et donc, si on donne un avantage fiscal, eh bien, l'État explique qu'il faut savoir prendre ce risque et l'assumer. Et c'est justement ce qui s'est passé pendant cette nouvelle loi des finances, c'est qu'on a durci un peu tout ça. Ouais. Et qu'il faut maintenant, à titre d'exemple, dans l'IRPME, on ne peut plus investir dans des sociétés qui avaient des pactes d'actionnaires rédigés de telle façon à ce qu'on puisse récupérer de manière quasi systématique son investissement initial, par exemple. Il y a des choses comme ça, plein de choses qui ont évolué en ce sens. Ouais. Les FCPI, FCPR, c'est fini depuis le 26 février dernier. Pas complètement fini. On peut investir dans des FCPR qui sont dédiés aux jeunes entreprises innovantes, justement. Donc, on vient renforcer ce côté innovation, ce côté deep tech. Et puis, après, eh bien, il y a le sujet simplement, il y a quand même une création. La JEII, Jeune Entreprise Innovante à Impact, qui permet donc de profiter d'un avantage fiscal à 40%. Donc, si on parle fiscalité, eh bien, on conserve cet engagement de la part de l'État, mais pour combien de temps? Et ça, ce sera pas sans prendre les risques qu'il faut avec.
Ce qui est étonnant et peut-être un petit peu contre-intuitif, parce que parallèlement, alors là, je vais parler de la bourse, mais on se rend compte qu'aux États-Unis, par exemple, le retail, l'activité vraiment placement particulier, prend de moins en moins le relais des institutionnels en ce moment. C'est même... on a un sentiment de risque off sur le particulier américain qui veut investir dans la tech, qui a sans doute jamais été aussi fort, alors que les institutionnels, eux, reprennent leur lait. Donc on a l'impression que d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, il se passe des choses, mais diamétralement opposées.
Ça a peut-être, je pense, on l'a dit, les investisseurs américains, ils sont quand même beaucoup, ils étaient déjà investis en bourse, mais ils l'ont plus fait après post-Covid, avec effectivement et sur le développement de l'IA sur les dernières années. Je pense qu'ils sont allés sur certaines thématiques avec parfois beaucoup de leviers. Je pense qu'il y a des gens qui se sont pris des pots, mais je pense que ça, effectivement, sur un marché volatile, ça calme un petit peu. Alors que finalement, la façon dont les investisseurs particuliers investissent en France est quand même beaucoup plus sage, me semble-t-il.
Oui, tout à fait. Mais ça nous ramène à la problématique du début, c'est...
Comment on arbitre, en plus.
Comment on arbitre, et de manière... Voilà, ça repart, mais peut-être de manière un petit peu plus raisonnée, raisonnable, et avec des perspectives un petit peu plus claires.
Oui, puis il y a un peu aussi un retour du... on a envie de rediriger notre épargne vers l'Europe, un peu moins vers les États-Unis, enfin, même si je sais qu'il y a encore beaucoup d'investissements, mais un peu moins vers les États-Unis. Il y a ce côté souverainisme. Nous, on le voit aujourd'hui sur la plateforme, on parlait tout à l'heure d'avantages fiscaux, mais il y a aussi le fait qu'on finance un dossier comme Opus chez nous, qui est une petite fusée surorbitale qui vient pour essayer de défendre l'arrivée de potentiels missiles, puisque l'hypersonique, donc c'est hyper complexe, mais les missiles hypersoniques, c'est des missiles qui vont 5 fois au-dessus de la vitesse du son.
On est à la fois dans le New Space, avec des visées civiles, mais aussi des applications militaires.
Absolument. Aujourd'hui, l'écosystème et malheureusement la situation macro nous oblige.
Exige.
L'exige. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, ça c'est ressenti, c'est assez palpable et assez incroyable. Depuis 18 mois, le private equity, dans le côté, la défense et l'aérospatiale, énormément progressé et reçu de capitalisation.
Là aussi, avec des innovations publiques, BPI France, notamment avec son fonds de private equity consacré à la défense. Est-ce que c'est pas, justement, peut-être, je regarde Telsat, là, qui grimpe encore de 4,2%, la thématique qui s'organise chez nous, qui est centrée autour de la high-tech, de la défense et de la souveraineté, c'est peut-être le trio gagnant des dynamiques qui vont intéresser, alors déjà le grand public, et puis organiser des dynamiques de long terme pour les institutionnels.
J'aimerais bien. Mais sur la dynamique d'investissement de la défense, on a déjà beaucoup parlé. Ça s'est déjà bien confirmé sur l'appréciation des différentes valeurs. On a quand même le sentiment, effectivement, que ça commence à se traduire dans les carnets de commandes. Il y a forcément encore des marges de progression. On rappelle, on importe en Europe la plupart de nos armements, 70% pour reprendre à peu près le chiffre qui est accordé. Donc, pour que ça se transforme véritablement en dynamique, il va falloir une véritable volonté européenne. Souvent, on parle de rapport Draghi, vous savez, et c'était amusé à faire, dans l'organisation que je suis, a fait un tracker du rapport Draghi. On a appliqué 14% aujourd'hui des préconisations qui étaient dans ce rapport. Donc, pardon, le chemin reste long.
Oui, mais j'allais vous dire, paradoxalement, il y en a quand même 14%.
Oui, enfin,
c'est totalement contre-intuitif.
Le maire au quart.
Voilà, il y aurait pu y en avoir zéro.
Oui, enfin, oui, c'est sûr. Mais je pense qu'effectivement, pour les questions de souveraineté, on se repose des débats qu'on s'était plus posé depuis des années.
Absolument.
Que ce soit dans la défense, dans la pharma, dans le paiement.
Ouais.
Et ça, au moins, ça fait du bien.
Oui, mais on le voit paradoxalement, la problématique de défense qui est quelque chose qui devrait unir les volontés, par exemple, du côté de l'Europe. Bon, Dassault et les Allemands, ça a l'air de plus aller du tout sur l'avion de combat du futur. Ouais. On a, alors c'est très intéressant ce cas d'école là qui est en train de se passer du côté de l'Italie, où apparemment Giorgia Meloni veut virer le patron de Leonardo.
Oui, Leonardo, oui.
Bon, pour des histoires politiques au premier abord, mais apparemment le problème est beaucoup plus grave, visiblement. C'est-à-dire qu'en gros, Leonardo a inventé un système qui globalement concurrence le Patriot pour 3 ou 4 fois moins cher. Et que Giorgia Meloni, elle, ça l'intéresse pas parce qu'elle veut continuer à acheter des Patriots, parce qu'on est copains avec les États-Unis quand même encore un petit peu. Est-ce que la souveraineté, c'est pas une dynamique qui devrait unir tout le monde? Et au bout d'un moment, quand on parle de la souveraineté dans la souveraineté, là, on n'est plus d'accord avec personne.
Ouais, je pense, en tout cas, d'un point de vue investisseur, je pense qu'il faut aller plutôt sur de... Enfin, faut se méfier des grands projets. Ça, je pense que les grands mécanos européens...
Oui.
En revanche, on voit bien que sur des commandes beaucoup plus précises, et c'est aussi pour ça que nos petites boîtes, les Exail ou les Exosens s'en tirent aussi bien, sur des matériels précis sur lesquels il y a un savoir-faire, où on n'est pas 10 ans à discuter d'un cahier des charges, ça fonctionne bien. Donc en fait, les groupes qui sont vraiment, qui sont capables de produire des matériels dont on a besoin, qui sont bien identifiés et autres, eux, ils vont vraiment voir leur carnet de commandes exploser. Mais c'est sûr que quand vous êtes embarqué sur que ce soit le char du futur, l'avion de combat du futur, les drones armés, en Europe, ça a quand même été un sacré sujet, ça.
Bah, et puis là, on continue d'utiliser des Predators et des Reapers.
Voilà. Donc,
américains.
Aller vraiment sur des choses plus simples,
sur des
sociétés qui ont qui sont sur des
parfois des marchés de niche, des segments,
exactement, savoir-faire de compétences, et là ça fonctionne bien.
Nos Exosens,
mais après on sort un peu du cadre, mais c'est vrai que là, on devrait être capable d'avoir une vraie stratégie européenne. On a des acteurs qui sont quand même assez complémentaires.
Oui.
On a encore quelques trous qu'on devrait pouvoir essayer de combler avec les compétences qu'on a en Europe. Mais là, je pense qu'on n'y est pas encore.
Laurent Grassin, Boursorama, Benjamin Watson, SoWeFund, merci infiniment d'avoir commenté cette actualité riche en problématiques high-tech, défense, souveraineté. Hein, ça reste vraiment la triade infernale pour ces mois à venir. Merci beaucoup et on passe aux arbitrages.
Tout pour investir, arbitrage.
Michael Landreau, analyste technique. Bonjour Michael. On continue notre petit bonhomme de chemin là sur le CAC 40 après une petite phase de digestion hier. On gagne 0,34% et on reste au-dessus des 8300 points, 8303. Malgré tout, il semble que les intentions se libèrent un petit peu moins que du côté de Wall Street et on avance quand même un petit peu plus lentement en ce moment.
Oui, tout à fait Antoine. Mais quand même, le mot juste, je dirais, c'est résilient. Hein. Encore une fois, le marché est toujours résilient. C'est d'ailleurs le mot que j'avais employé le mois dernier. Mais il est quand même incroyable de voir à quel point le marché voit le verre à moitié plein. Parce que à l'heure actuelle, aujourd'hui, Antoine, il n'y a aucun accord avec l'Iran et les États-Unis. Hein, et ça peut durer quand même des semaines. Donc, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Oui, ça peut durer donc du coup des semaines. Et malgré ça, le S&P 500 est tout pratiquement à son ATH. Donc, rappelez-vous, je vous avais dit de toute façon le mois dernier que le marché allait s'habituer. Donc, c'est chose faite. Ils sont encore habitués, mais je trouve que le mal est fait, Antoine, parce que même si demain il y avait un accord entre l'Iran et les États-Unis, le baril va rester haut longtemps, au moins plusieurs semaines, et ça va forcément se répercuter sur l'économie et sur les résultats d'entreprise. D'ailleurs, on l'a déjà vu sur Hermès et notamment LVMH. Et la liste va être longue, à mon avis. Donc, ben, de toute façon, j'ai envie de vous dire à l'heure actuelle, Antoine, moi, personnellement, je privilégie la lecture graphique. C'est toujours ce que je vous répète. Pourquoi ? Ben, parce que la lecture graphique, c'est le marché. Et le marché, notre avis, ben, on est rarement en symbiose. Et du coup, ben, par rapport au CAC, à l'heure actuelle, je n'ai pas de position, Antoine. Je n'ai pas de position. J'avais pris un short sur la zone des 8300 points, Tech Profit 8201. Je l'ai eu. Le reliquat a sauté. Mais par contre, ben là, je n'ai pas pris d'achat, ben, parce que pour moi, avec les réseaux que je viens de vous invoquer plus haut, le risk reward n'est pas bon. Le risk reward n'est pas bon. Donc, comme on dit, Antoine, ben, ne pas trader, c'est trader également. Donc, c'est ce que je fais. J'attends la suite des événements. Protection du capital et je prends pas de risque.
En plus, Mickaël, je pense singulièrement à ce qui se passe du côté du CAC 40. On a encore, alors c'est amusant parce qu'on reprend les vieux réflexes. Du côté de Wall Street, c'est un peu la tech qui va faire la tendance, et du côté du CAC 40, c'est le luxe qui fait un peu la tendance. Et là, pour le coup, ça retient un petit peu les intentions d'achat. Peut-être aussi la volatilité autour de Total Energy et des cours du brut. C'est des très grosses pondérations et donc ça pèse un petit peu sur les évolutions du CAC, on va dire.
Oui, exactement, Antoine. Après, de toute façon, encore une fois, nous sommes dans la publication des résultats, donc soyez très prudents par rapport à ça, parce que je pense qu'on va encore avoir des mauvaises surprises justement à cause de la hausse du baril, et ça va encore forcément se répercuter. Donc, ne forcez pas le trading, attendez la suite des événements, parce qu'en plus, même s'il y avait un accord, je pense quand même que là, il est largement pricé par le marché, largement. Donc, qu'est-ce qui risque de se passer derrière ? Ça risque en plus de vendre. Donc, on attend, Antoine, on attend. Encore une fois, ne pas trader, c'est trader parfois. Faut pas forcer le trading.
Non, absolument pas. Et puis, ne pas passer d'ordre d'achat, c'est en passer un quand même, parce qu'on donne un signal très très clair. Donc, malgré tout, les volumes d'échanges restent relativement élevés. Est-ce que ça veut dire aussi que les institutionnels, le quantitatif, revient un petit peu occuper le terrain ? Et que c'est justement une raison de plus d'être un petit peu prudent, de pas se prendre les doigts dans la porte, quoi.
Bah, en fait, si vous voulez, c'est ce que vous avez dû expliquer lors d'un de nos entretiens, en fait. Le problème, en fait, c'est que la valorisation de l'indice cache un petit peu la réalité. Parce qu'en fait, je vous l'ai dit, pour moi, l'indice est haussier, mais l'indice, pas le marché. Alors, est-ce que c'est par rapport à toutes les ETF que maintenant c'est vraiment devenu à la mode, que vous avez beaucoup, beaucoup de gens qui sont dessus et du coup, on fait tout pour les maintenir hauts? C'est ce que je pense. Personnellement, c'est ce que je pense. Parce que vous avez encore beaucoup d'actions qui sont à la cave. Donc, et quand vous regardez, même s'il y a un petit peu de mieux, par exemple, au niveau de Pernod Ricard et d'autres actions, si vous regardez les graphiques, il y a encore beaucoup d'actions qui sont sur leur plus bas.
Effectivement, et donc pas mal d'arbitrage et encore d'incertitudes sur les marchés. Merci Mickaël Landreau d'avoir été avec nous pour détailler ce plan de trading et donc ses conseils de prudence. Restez avec nous, un petit peu de réclame et on passe à la boîte à outils de TPI, l'assurance vie, le couteau suisse de l'épargne. Mais peut-être pas forcément, on va voir ça avec François-Xavier Sœur de Terra. Tout de suite.
Tout pour investir, la boîte à outils.
François-Xavier Sœur de Terrae, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, on va un petit peu, c'est comme le bullshitomètre de BFM Bourse, on va tordre le cou à certaines idées reçues. L'assurance vie est un placement universel, un couteau suisse, il convient à tout le monde. Faux. Non. Bullshit.
Absolument. Dans BFM Bourse, vous mettez le voilà, l'orage à ce moment-là.
Ouais. Oui, absolument. Et donc, non, on peut être victime d'erreurs d'aiguillage. Il y a des cas de figure où... c'est pas forcément le truc à préconiser. Et vous avez relevé 4 cas.
Exactement.
Où effectivement, ça peut s'avérer être une mauvaise idée.
En fait, l'assurance vie, c'est un produit. Ça peut pas être une stratégie patrimoniale. C'est-à-dire que quand on fait une stratégie patrimoniale, on fait du juridique, on fait du financier, on peut faire du produit. Mais ça peut pas constituer toute la stratégie patrimoniale. Mmh. Et vous avez certains de mes confrères qui sont quasiment à 100% de leur chiffre d'affaires en assurance vie. C'est problématique. C'est-à-dire que quand la réponse à « je veux faire de la retraite, je veux épargner, je veux réduire ma fiscalité, etc. », c'est un produit, À un moment, on disait Pinel. Maintenant, certains, ils disent, voilà. Après, ils ont dit PER.
Avec ces grands parcs de lotissements infinis construits n'importe comment, qui attendent encore des gens dedans, oui.
Oui, alors quand ça a été vendu effectivement dans des zones sans tension, et puis même quand il y a eu des zones avec tension, je vous invite à demander aux notaires qui passent sur votre plateau, quand ils vendent des produits de défis, qu'à combien ils les vendent.
Aïe.
Mais en tout cas, l'assurance vie, voilà, il faut faire attention à l'approche produit, il faut avoir une stratégie patrimoniale. Et effectivement, vous avez des cas où il n'y a pas d'intérêt à faire de l'assurance vie, ou alors en diversification. Le cas le plus parlant, c'est un couple marié qui n'a pas d'enfant. Un couple marié qui n'a pas d'enfant, depuis la loi, alors ça c'est Sarkozy quand il est arrivé au pouvoir en 2007, il a supprimé les droits de succession entre époux. Quand vous décédez, entre vous, il n'y a pas de droit de succession. Et il y a beaucoup de clauses bénéficiaires qui ont été faites au profit du conjoint. Donc vous exonérez, avec un produit fiscal qu'est l'assurance vie, des sommes au profit de quelqu'un qui est exonéré par la loi. Donc ça ne sert à rien.
Oui.
Et vous avez quand même beaucoup de personnes aujourd'hui, quand même beaucoup de couples en France qui n'ont pas d'enfants et qui n'en auront jamais, et où la personne à protéger, c'est le conjoint. Point.
Et alors là, à ce moment-là, dispositif classique, la donation au dernier vivant, ou
voilà, la
donation,
c'est la partie juridique, mais sur la partie produit et investissement, faites du PEA, faites du compte-titres, faites de l'immobilier, faites tout ça.
Des trucs qu'on ferait pour soi.
Voilà.
Et puis, on le
fait éventuellement, en diversification, faites de l'assurance-vie, mais vraiment parce que vous avez envie d'avoir du fonds euro, parce que vous vous dites peut-être qu'un jour, je voudrais privilégier quelqu'un d'autre que mon époux ou mon épouse, mais c'est pas... ça ne doit pas être le centre de la stratégie patrimoniale. Attention, également, c'est le cas des pacsés. Entre partenaires de pacs, il n'y a pas de droit de succession, à condition d'avoir mis un testament. Parce que quand on est pacsé, mais qu'il n'y a pas de testament, on n'est pas héritier l'un de l'autre.
D'accord, ok.
Vous
donc ça, il faut que ce soit un dispositif à part.
Vous êtes pacsé, vous avez un enfant, votre héritier, c'est l'enfant si vous n'avez pas fait un testament. Donc voilà, attention à ces cas-là.
Bon, et puis à la fiscalité aussi. Est-ce qu'il y a des... On fait un crash test. Est-ce qu'il y a des cas où la fiscalité de l'assurance vie peut finalement être défavorable par rapport à d'autres genres de supports?
Bien évidemment. Et il faut faire attention au cas où vous allez vider votre patrimoine. En fait, lorsque vous liquidez une succession, on fait une liquidation civile puis une liquidation fiscale. La liquidation civile, c'est qui récupère quoi. La liquidation fiscale, c'est qu'est-ce qu'on doit au fisc. Et quand on fait cette liquidation fiscale, on la fait donc hors assurance-vie. L'assurance-vie, on la traite à part sur le plan fiscal.
D'accord.
Lorsque vous recevez une somme, je fais le cas des enfants aux parents. Lorsque vous recevez une somme de vos parents, vous avez un abattement de 100 000. Et au-delà de cet abattement de 100 000, jusqu'à 16 000 euros, vous êtes taxé de 0 à 15 %. Et entre 16 000 et 550 000 euros reçus de vos parents, vous êtes taxé à 20 %.
D'accord.
L'assurance-vie, vous êtes exonéré en tant que bénéficiaire d'un contrat assurance-vie jusqu'à 152 500 et au-delà, vous êtes à 20%. L'idée, c'est qu'en France, quand vous avez un peu de patrimoine, que vous avez 200, 300, 400 000 euros de patrimoine, vous devez jouer sur cette tranche à 20%. Parce que c'est globalement celle qui... Voilà, il faut optimiser les tranches inférieures et jouer sur la tranche à 20%. Le risque, c'est quoi? C'est de basculer sur la tranche suivante de l'assurance-vie à 31-25 ou de vider tellement le patrimoine perso, parce que quand vous êtes âgé, quand vous avez 80-85 ans, vous faites des donations et vous consommez, parce que généralement les besoins augmentent. Le risque, c'est de vider le patrimoine perso, de garder ce qu'il y a sur l'assurance-vie et de se retrouver, pour les héritiers, moins taxé sur les droits de mutation à titre gratuit issus de la succession que ce que vous allez payer en assurance-vie.
D'accord.
Donc il faut régulièrement rééquilibrer ça. Et voilà, le point de flottement pour, 90% de ceux qui ont une succession et qui ont du patrimoine,
c'est les 20%.
C'est les 20%. Alors, essayez de rester sur cette tranche avant.
Wow. Non, mais ça, oui. Et puis,
c'est pour ça, une stratégie patrimoniale, se met en place et ça se suit.
Exactement.
Vous devez la revoir, la clause bénéficiaire, vous devez la revoir chaque année. Moi, chaque année, je renvoie la clause bénéficiaire à mes clients. Parce qu'il faut la relire. C'est extrêmement, extrêmement important.
Bon, est-ce qu'il y a d'autres cas qui sont justement défavorables quand on choisit l'assurance-vie?
Et un cas qu'on oublie, qui est majeur et pour des personnes protégées. Vous avez un cas qui est particulier, et j'ai le cas, pour le coup, dans mon cabinet.
D'accord.
C'est le cas d'une famille dont le père de famille a eu un gros accident de la vie, indemnisation, responsabilité civile, donc de plusieurs millions d'euros.
D'accord.
Sauf que lorsque vous avez une indemnité, il y a un dommage corporel, c'est exonéré en cas de succession.
D'accord.
Sauf que là, le bénéfice duquel on parle, dans le cas présent, c'est plus de 5 millions d'euros. Ces 5 millions d'euros, vous les mettez sur un contrat d'assurance vie, décès fiscalisé à 31,25% pour la tranche la plus haute. En direct, 0%.
Ah oui, d'accord. Okay.
J'ai été consulté avec un autre CGP. L'autre CGP mettait tout en assurance vie, je précise, avec 75% sur les fonds structurés. Bon, je pense que lui, il s'est dit, je prends mes 5% de droit d'entrée sur 5 millions d'euros et c'est fait.
C'est ça.
Mais surtout, il y avait cette grosse question de succession. C'est-à-dire que les héritiers se faisaient massacrer à la succession.
Mais c'est ça. C'est...
Et le conseiller de base avait été recommandé par une association de victimes. Donc, je voudrais juste dire aux personnes qui sont dans ces cas-là, faites extrêmement attention, parce que quand on est dans ces moments-là de grande souffrance, que ce soit d'accord, je peux vous dire que préférez la famille ne pas avoir 5 millions d'euros et garder la situation d'avant. Ça, je peux vous signer 10 fois. Mais attention dans ces moments-là, qui sont des moments de grande tension et de grands mouvements patrimoniaux en même temps, à ne pas vous faire avoir par des margoulins ou par des personnes qui ne sont juste pas formées. Et je lance vraiment un appel aux associations de victimes. Faites attention à qui vous recommandez.
Non, c'est clair.
Parce que dans ces moments-là, peut-être que vous avez des personnes que vous considérez comme personnes de confiance, mais qui ne sont pas forcément à l'aise sur ces personnes que sont les majeurs protégés et sur cette classe d'actifs, sur ces sommes issues d'indemnités qui sont quand même extrêmement particulières.
Et puis, ça reprend un petit peu le cas d'avant, c'est énorme. Et donc,
31,25 sur 5 millions.
Voilà, c'est... Dernier cas... quand on commence à se construire un patrimoine, quand on est jeune, c'est peut-être pas non plus le moment rêvé de directement passer à l'assurance vie.
Commencer par l'assurance vie, moi je suis pas fan de ça. Quand on est jeune, on a du temps devant soi. Moi j'aime le PEA. Voilà. C'est pour ça que j'aime regarder BFM Bourse l'après-midi. J'aime les PEA, j'aime investir en bourse, j'aime aller chercher des choses qui, quand on rentre sur un produit d'assurance vie tout de suite, vous rentrez sur quelque chose qui généralement va être du garanti en capital. Donc le risque quand on a du garanti en capital, c'est d'avoir des sommes qui vont être placées très longtemps et qui ne vont pas permettre d'aller générer les plus-values nécessaires pour développer un patrimoine. Et rentrer dans une culture financière tout de suite, commencer à épargner, aller vers autre chose que vers de l'assurance vie. Gardez-vous de côté l'apport pour de la résidence principale, si vous savez que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous allez faire de l'apport, vous êtes un salarié ou un chef d'entreprise avec une boîte qui commence à tourner ou une profession libérale, vous commencez à dégager des salaires, mettez-en une partie de côté pour la résidence principale, commencez à construire votre patrimoine. Si vous n'avez pas d'enfants, vous ne lancez pas tout de suite dans une logique d'assurance-vie. Même logique si vous êtes des parents et que vous ouvrez des contrats assurance-vie à des mineurs.
Ouais.
Aux États-Unis, on achète une action Google. En France, on ouvre un livret A. Posez-vous la question. Vous avez 20 ans, 25 ans avant que ces sommes-là soient utilisées par par des enfants. Bon sang, vos enfants, ouvrez-leur des comptes titres.
Ouais, c'est ça. Prenez du risque parce que le risque, de toute manière, est allié au temps.
Vous prenez une pomme, le temps dérisque votre allocation.
Voilà, c'est ça.
En finance, c'est mathématique, le temps dérisque votre allocation.
Et ensuite, il sera toujours temps de mettre ça sous une assurance vie une fois qu'on aura fait la performance.
Voilà, ou de mettre ça de côté, justement, pour vous permettre quand les personnes... C'est une très bonne logique financière. Vous avez 20, 25 ans, mettez-vous de côté une poire pour créer votre future boîte, commencer à acheter une résidence principale, très bien. Mais à côté de ça, commencer à investir, mais allez pas faire du fonds euro en assurance vie.
C'est pas forcément le bon moment, parce que le patrimoine, c'est évolutif aussi. Il faut jamais l'oublier. Merci infiniment de nous le rappeler, François-Xavier Sœur de Terrae, et à une prochaine fois, justement, pour déconstruire un petit peu ces idées toutes faites parfois sur le patrimoine. On passe au small et mid cap, puisque c'est jeudi. C'est jeudi, c'est Small et Midcap.
Tout pour investir, le placement à suivre.
Avec Eric Lewin de Bourse Direct. Bonjour mon cher Eric.
Salut mon cher Antoine.
Ça va bien ?
Bah, très bien, écoutez, comme les marchés.
On n'est pas trop mal, effectivement. Avec si on regarde la semaine écoulée, on a un CAC Small et Mid qui est en hausse de 3%, CAC Small plus 3,5%. Le CAC 40 lui fait 0,35, mais se porte quand même bien malgré les fluctuations. Donc on peut dire qu'on a encore une fois une jolie surperformance des Small et Mid Cap de nos petites et moyennes capitalisations.
Bah oui, écoutez, d'autant plus que depuis le début de l'année, le Mid and Small gagne 3,4%, le CAC Small 2% et le CAC 40 1,9%. À noter cette semaine, on n'en a pas parlé beaucoup, que Poulaillon, c'est une entreprise alsacienne de boulangerie et de produits traiteurs d'Alsace, va quitter la bourse. OPA sur les 24% non détenus à 9 euros par action, c'est une prime de 28,6%. Et que disent nos amis de Poulaillon? Pourquoi ils quittent la bourse? Coût élevé, contrainte. Et surtout, pas d'appel au marché depuis la première cotation en 2015. Donc pour Poulaillon, bien évidemment, aucun intérêt de rester en bourse. Et ça pose bien évidemment le problème des coûts, des contraintes, etc., etc., qui fait qu'il y a peu d'introduction en bourse et qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont envie de quitter le marché financier. Donc c'est le cas de Poulaillon. Bonne opération quand même pour les investisseurs qui étaient dedans, puisque la prime est de 28,6%.
Ouais, c'est une jolie prime, effectivement, mais oui, c'est toujours le même problème de la réglementation, des coûts. La bourse, c'est pas gratuit, hein, ça permet de lever des capitaux, mais à quel prix, surtout pour des petites entreprises. En revanche, il y en a une qui est en train de récolter des fruits de dizaines ou de quinzaines d'années de développement, c'est Ribère. Et là, on a beaucoup de questions, Eric. Ribère gagne 70% en une semaine. En 5 ans, je crois qu'on dépasse les 1000% de hausse. On parle là d'une machine, d'un fabricant de machines pour le secteur des semi-conducteurs avec des technologies vraiment disruptives. Il y a quand même des investisseurs et des analystes qui sont venus sur ce plateau qui se sont dit « Ouais, mais Ribère, leur chiffre d'affaires, en 10 ans, il a grimpé de voilà, 10-15%, pas plus. Est-ce que ça vaut une hausse de 1200%, Ribère ?» Alors que c'est très prometteur, mais c'est quand même très volatile comme activité, non ?
Oui, alors écoutez, juste un mot avant de parler de Ribère. En fait, en ce moment, mon cher Antoine, il y a une folie autour des small caps liées à l'essor de l'intelligence artificielle. C'est une dinguerie. J'ai regardé, avant de parler de Ribère, quelques valeurs. Calray, 350% depuis le début de l'année, ils sont spécialisés dans ce qu'on appelle les DPU, le segment clé pour les data centers, il y a. De CRSI, 236% depuis le début de l'année, on est dans les serveurs haute performance sur mesure. Semco Technologies dans le monde des semi-conducteurs, plus 62%. C'était Semco, l'une des dernières IPO à Paris. Et puis donc, ce fameux Ribère, 267% depuis le début de l'année. Alors, ce qu'il faut dire, c'est un fabricant de machines de ce qu'on appelle l'épitaxie par jet moléculaire. J'ai été chercher, bien sûr, pour savoir.
Il faut aller sur Indico, là. Oui.
Bah ouais, non, parce que sinon, je donne des termes et personne ne comprend rien. Mmh. En fait, c'est une technique utilisée en physique des semi-conducteurs pour fabriquer des matériaux ultra précis, couche par couche. Alors, en fait, tout est parti de quoi ? Du 8 avril. De très bons résultats. Alors, certes, le chiffre d'affaires depuis 3 ans, il y a vraiment que dalle, si vous me permettez cette expression, il est stable. Mais les investisseurs croient en la nouvelle machine qui s'appelle Rosie. Ouais. Qui est spécialisé pour conquérir le marché de la photonique sur silicium qu'on utilise beaucoup pour les datacom dans le calcul quantique. Et c'est vrai que les résultats 2025, quand vous voyez ce qui se passe, vous vous dites, non mais attendez, c'est quand même complètement dingue, parce que quand vous regardez les résultats 2025, résultat net en hausse de 27% à 5 millions d'euros, c'est bien. Taux de marge brute qui passe de 36% à 38,5%, c'est bien. Mais est-ce que ça vaut la folie qu'on a connue cette semaine et surtout les 267% depuis le début de l'année? Moi, je pense pas. Mmh. On est sur un PER supérieur à 50 sur 2025, 40 sur 2026, mais là encore, c'est beaucoup d'espoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que se disent les investisseurs ? D'abord, c'est quand même des petits marchés, parce qu'on n'est pas dans des capitalisations de 15-20 milliards, c'est des petites capis. Mais qu'est-ce qu'ils disent les investisseurs ? Vous êtes un investisseur, vous n'avez pas envie de louper le coche, et donc vous achetez des 4-5 boîtes qui sont dans le secteur en vous disant, de toute façon, s'il y en a une qui sort, elle fera 800%, et si les autres, ça marche moins bien, ça fera moins 80. C'est ce qu'on avait connu, vous rappelez, quand on bossait ensemble sur BFM, lors de la bulle Internet, où tout le monde achetait tout, et puis il y en avait une ou deux qui sortaient, et puis celui qui était placé sur les une ou deux qui sortaient, finalement, gagnaient beaucoup d'argent. Alors, sur Ribère, moi, je considère, je me suis fait taper sur les doigts, sur X, un peu partout, en disant que j'étais nul, etc. Je considère qu'une boîte, quand même, qui gagne encore 12% aujourd'hui, qui vaut 306 millions d'euros de capi, qui gagne 310% depuis le 1er janvier, 79% une semaine, faut prendre des bénéfices. Je le disais lundi chez Guillaume, ça valait 11,78, ça vaut 14,38. Je persiste et signe. Attendons de voir les livraisons de machines. C'est vrai que c'est un beau dossier, mais en termes de valorisation, moi, j'arrive pas à y aller. Moi, j'arrive pas à aller sur un PER de 50.
Ouais,
d'autant plus que le chiffre d'affaires cette année, il va pas doubler, on fera quoi ? Plus 20 ? Plus 20 ou plus 25%. Donc bon, écoutez, je laisse la folie s'emparer de tout le monde et puis on verra quand la raison l'emportera à nouveau. C'est quand même un très beau dossier, je veux pas être méchant, je veux pas être le type qui est passé à côté et qui est un peu aigri. C'est un très beau dossier, mon cher Antoine, mais c'est très cher.
Bon, et puis on va parler d'un secteur peut-être un petit peu plus défensif, la restauration collective. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Elior, de Sodexo. Catering, plus 20% en un mois. C'est une valeur qu'on a tendance à un petit peu ignorer dans ce secteur, mais qui garde des atouts, sa dimension, sa gestion. Ça a l'air d'être une boîte intéressante.
Ouais, alors vous savez, Catherine, c'est spécialisée dans la gestion de base de vie en milieu extrême.
Ouais.
Grosso modo, vous êtes sur une plateforme offshore au large de la mer de d'Oman. Mais figurez-vous qui s'occupe de tout, la restauration, l'hôtellerie. Il y avait, vous rappelez, des déboires quelques années. Je crois qu'il y avait une prise d'otage en Algérie de sinistre mémoire. Ouais. Non, ce qu'on peut dire, c'est que ça marche très bien. L'année 2025 a été excellente. Le titre a touché hier un plus haut depuis 5 ans. Chiffre d'affaires en hausse de 16%, 489 millions d'euros. Montant en puissance de contrat en Afrique et en Eurasie. Hausse de l'EBITDA de 40%. Marge qui gagne 150 points de base. Que dire de la hausse du résultat net, plus 86% à 9 millions d'euros. C'est pas cher. PER de 13, et surtout, comme il y a beaucoup de trésorerie, je crois qu'il y a autour de 50 à 60 millions de cash, on a une VE sur EBITDA de l'ordre de 2. Donc ça peut continuer. À noter que le fondateur, c'est Régis Arnoux, qui doit avoir au-dessus des 80 ans. Il m'a toujours dit qu'il n'avait pas envie de vendre sa société, mais sait-on jamais. Donc il y a peut-être une petite dimension aussi spéculative sur CIS, Catering International Service, qui est une boîte basée, on en parle peu, à Marseille, sur le Vieux-Port, enfin pas loin du Vieux-Port.
Bon, société intéressante, un catering, plus 20% en un mois. Ben, merci Eric d'avoir un petit peu défriché le terrain sur ce monde des small et mid-cap, comme toutes les semaines. On vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, petite pause, ben, restez à l'écoute Eric, parce qu'il y a un sujet qui va vous intéresser. On va parler belles montres de collection. Et voilà, ça nous intéresse tous. Mais attention, les montres de collection liées au monde automobile. On sait que les deux histoires sont intimement liées. Les spécialistes d'Agut nous rejoignent dans un instant. Restez à l'écoute de TPI sur BFM Business.
Tout pour investir, le coffre-fort.
Bon alors, on va parler montres de luxe et de collection. Il y a une grosse actualité en ce moment. Alors, il y a le salon de l'horlogerie à Genève. Et tiens, d'ailleurs, nos journalistes de bfmbusiness.com sont allés y faire un tour. Et on va peut-être essayer d'avoir une réponse à une question qui nous taraude tous dans le monde de la montre de collection. J'en dis pas plus. Pour l'instant, on reçoit Claire Hoffmann, qui est directrice du département montre de collection chez Agut. Bonjour.
Bonjour.
Il y a un autre... oui, merci. Et merci d'être venu, parce qu'il y a un autre événement qui est très lié à l'actualité de l'horlogerie, c'est le Tour Auto.
Oui.
Voilà, le Tour Auto en France. Alors, c'est des voitures de collection, etc. On peut se dire, bon, voilà, oui, ok, le Tour Auto. Mais oui, mais il y a toujours, avec les grandes compétitions automobiles, qu'elles soient honorifiques, un peu comme le Tour Auto, ou que ce soit de la grosse compétition, championnat, etc. Il y a toujours une histoire commune entre l'horlogerie
et
le monde automobile. Alors, les courses, on n'en parle plus. Il y a eu une Daytona chez Rolex. Daytona, bah, c'est une grosse course américaine. Il y a la Mille Emilia chez Chopard, etc. Mais voilà, c'est un vrai marché, et c'est un vrai marché dans le marché, j'allais dire.
Oui, alors c'est vrai que chez Agut, on a vraiment, on aime ce lien entre ces deux spécialités qui se parlent très bien et qui se ont toujours été très liées en fait. Et donc on a cet événement chaque année, cette vente aux enchères qu'on organise à l'occasion du départ du Tour Auto. Mmh. En plus cette année c'est formidable parce que ça va être donc au Grand Palais. Et chaque année, on nous confie des lots qu'on présente à cette occasion-là. Et alors, on essaye d'avoir évidemment des modèles qui se rapprochent le plus possible de justement ce lien entre l'automobile et l'horlogerie.
Bien sûr.
Alors, effectivement, il y a en même temps, c'est un lien qui est très fort. Donc, on peut parler effectivement de la Daytona de Rolex, voilà, qui vient effectivement de ce circuit Daytona en Floride, voilà, ce circuit emblématique. On a, je pense par exemple aux montres Driver, par exemple de Vacheron Constantin, qui était incliné pour qu'on puisse lire l'heure avec la main au volant. On a cette fameuse complication qui est la complication la. Je pense peut-être la plus utilisée, le chronographe, qui, alors au départ était pour chronométrer, par exemple des courses d'équitation, mais qui aujourd'hui est vraiment utilisé, enfin au fil du temps a été utilisé pour justement courses automobiles, qui a évolué. Avec le chronographe rattrapante pour même avoir
pouvoir le temps de la première, le temps de la deuxième,
exactement,
etc.
Pour avoir deux temps quasiment au même moment.
Voilà, parce que c'est peut-être ce qu'il faut expliquer justement sur ce phénomène des montres de collection liées à l'automobile, c'est que c'est pas une montre chère avec marqué les 24 heures du Mans dessus. Non, la technologie, l'histoire de la montre
s'adapte au monde automobile, voilà. En fait. Il y a un vrai lien.
Et peut en être inspiré
entre
aussi.
Les deux. Exactement. Voilà, voilà. Et puis à côté de ça, vous avez effectivement des manufactures qui se sont associés à des marques automobiles. Alors je pense par exemple, pour citer celles qu'on passe dans notre vente, on a une Jaeger LeCoultre Amvox qui a été fait pour Aston Martin. Donc ça c'est assez. Voilà, si on a l'Aston Martin, il faut avoir cette montre.
Oui.
Et vice versa.
Oui.
Dans quel sens à vous
c'est
décider.
Ça. Ouais, c'est
mais voilà,
ça,
en
ouais.
tout cas, il y a vraiment un lien. On a par exemple une Panerai Ferrari.
Et ils sont en partenariat depuis très très longtemps. Hein,
exactement.
Les deux,
ouais. Donc ça c'est des modèles qui sont vraiment intéressants quand on est à cheval entre ces deux spécialités. Et puis après, je trouve ça intéressant parce que le monde automobile et l'horlogerie, il y a ce sujet de mécanique qu'on retrouve dans les deux.
C'est ça. C'est exactement
mais
ça.
Qui se traitent, et c'est là où ça m'intéresse, c'est que ça se traite de façon très différente. L'automobile, voilà, ça fait du bruit, ça chauffe, il y a un côté physique, ça nous plaque voilà, dans
c'est
le ciel, parce que ça va vite, ouais. Voilà, il y a une vraie sensation. Dans le monde de l'horlogerie, tout va être beaucoup plus discret, très petit. C'est vraiment un travail d'ingénieur incroyable, en fait, de faire rentrer ces mouvements dans de si petits boîtiers. Et donc, voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de traiter un peu ce parallèle entre les deux.
Parce que ça peut être, alors, pas forcément que dans la mécanique, mais dans le décor, je repense à un modèle très emblématique aussi, alors très horlogerie et automobile, c'est la Chopard 1000 Emilia. Oui. Moi, je me souviens de modèles où le cadran était fait en aluminium bouchonné, comme sur le tableau de bord des voitures anciennes.
Et puis, vous avez le bracelet qui était en forme de pneu, voilà, exactement. En caoutchouc. Donc, tout était dans le détail pour rappeler justement cette association des deux spécialités. Et ça, effectivement, c'est un marché qui est très intéressant. Et alors, cette vente qu'on organise, qui aura lieu le 4 mai. On a des modèles, donc effectivement très liés à ce monde de l'horlogerie, de
l'automobile. Ouais.
Et à côté de ça, on en profite aussi pour fêter à nouveau un anniversaire qui est très particulier cette année, qui est l'anniversaire de la Nautilus de Patek Philippe.
Ah ben, on en avait parlé.
Voilà, ouais. On en avait déjà parlé la dernière fois.
Alors, modèle plus lié au monde du nautisme, nécessairement.
Voilà, exactement. Mais bon. Alors là, on s'écarte un peu du monde automobile, mais en tout cas, c'est vrai que c'était l'occasion de recélébrer à nouveau cet anniversaire, et notamment donc avec deux modèles qui sont assez différents, deux références qui sont très différentes. On a la 3700 qui est la première référence de la Nautilus, qu'on a dans une version or jaune.
On le rappelle,
fantastique.
Une Patek Philippe Nautilus, on ne peut pas l'acheter neuve.
Bah aujourd'hui non, c'est un petit peu difficile. Et voilà. Vous avez en fait, surtout ce qui est intéressant, c'est quand vous avez cette version 3700 qui date de 1980. Voilà, c'est vraiment la montre vintage.
Totalement.
Voilà, c'est extraordinaire, elle est magnifique.
On la reconnaît du premier coup d'œil.
Voilà, c'est et puis elle est dans un état. Voilà, faudra. Je vous invite à aller voir le catalogue qui sera en ligne là à la fin de la semaine. Et on a la version en acier avec une complication, un calendrier annuel qui est dans sa version acier.
Alors ça, à réaliser en mécanisme d'horlogerie, je peux vous dire qu'on atteint des niveaux de complexité totalement dingues. Oui.
Et donc ça allie le côté un peu sport à justement cette mécanique qu'on recherche en tout cas dans le monde de l'horlogerie et là pour vous donner voilà une idée en tout cas de en termes d'investissement. C'est une montre qui avait été achetée en 2019 autour des 35 000 euros de mémoire, et aujourd'hui qu'on estime entre 50 à 80 000 dans cette vente du Tour Auto. Et voilà, c'est des montres qui prennent de la valeur, c'est des montres qui sont recherchées sur le marché et qui, je pense, trouveront leur public lors de la vente. Et
puis vous avez noté, point de vue prix, on est à peu près sur un ordre de grandeur qui est une montre égale une voiture, à peu près une jolie.
Mais il y a de tout, ce qu'on aime, c'est voilà, il y a de tout. Voilà. Il y a aussi la Panerai, Ferrari, estimée entre 2 à 4 000 euros. Ouais. Voilà, dans des budgets plus raisonnables.
Un prix un tout petit peu plus raisonnable. Voilà. Dernière petite question. Je sais que vous n'avez peut-être pas nécessairement la réponse, mais il y a une grosse actualité, une grosse rumeur et un gros buzz là en ce moment partout. Je lis ça sur le Financial Times, le Wall Street Journal, ils sont sur les dents là-dessus. Est-ce que Rolex va arrêter la Pepsi? Le cadran bleu et rouge.
Ça, c'est pas. Moi, j'ai pas encore là la réponse à vous donner. Après, ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, ça peut faire. Ouais. Voilà, c'est des nouvelles qui, en tout cas, sur le marché de l'horlogerie, peut faire évoluer les choses.
Et les cours sur le marché de la seconde main. Enfin, je vois qu'il y a une prime absolument dingue sur ce modèle précis. Donc, encore une fois, c'est une édition spéciale d'un modèle de Rolex, cadran rouge et bleu. Il y a une rumeur comme quoi Rolex voudrait l'arrêter.
Mais
alors,
ça,
une nouvelle
c'est des
fois.
Des choses qui sont amenées à évoluer et qui peuvent changer effectivement le marché, en tout cas de l'occasion.
Exactement. Et qui vous explique comment certaines éditions collector et un peu rares peuvent largement prendre de la valeur.
Exactement.
Merci infiniment, Claire Hoffmann. C'était encore une fois passionnant, évidemment, directrice du département montre de collection chez Agut. Alors, certaines montres valent le prix d'un appart parfois. Oui, je vous mens pas. Eh bien, on va parler immobilier dans quelques secondes avec Marie Cœur de Roy, les experts immo. Je vous retrouve à 15h30 aux côtés de Guillaume Sommerer pour BFM Bourse. À tout à l'heure. Bon appétit si vous êtes à table.
Merci.
Tout pour investir sur BFM Business.